Merci Père d'avoir fait de nous une famille. Merci pour ces moments qu'on peut vivre ensemble, Seigneur. Vraiment, Père, merci pour ton grand amour pour chacun de nous. Merci pour le soin que tu prends de chacun de nous, Père. Et bénis ces moments qu'on va passer ensemble, Père. Vraiment, enseigne-nous, Père, apprends-nous des choses, Père, que ça puisse nous aider, Seigneur, à ressembler à ton Fils, Jésus. Dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. En pensant à ces moments riches en enseignements que nous allons vivre, j'ai pensé à un petit passage de l'Écriture qui se trouve en 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce passage dit beaucoup de choses, mais j'aimerais juste souligner trois choses que ce passage dit. Paul encourage Timothée à vraiment demeurer, à rester attaché aux choses qu'il a apprises. Deuxième chose, c'est qu'il dit que toute parole, il insiste sur le fait que toute parole est inspirée. Chaque verset du début de la Bible, du début de la Genèse jusqu'à la fin, a vraiment été sous la directive de Dieu. Et vraiment, aucun livre sur cette terre ne ressemble au livre que chacun de nous avons entre nos mains, la Bible. Il y a des livres qui ont des choses vraies, sages, utiles, mais aucun ne ressemble à la Bible, qui est la parole de Dieu. Et troisième chose, c'est que Paul dit que c'est la parole qui nous prépare, qui nous forme, qui nous équipe à toute bonne œuvre que Dieu a préparée pour chacun de nous d'avance. Et donc vraiment, si nous sommes ici ce soir, nous avons vraiment fait un bon choix, celui d'écouter Dieu à travers la parole de Dieu. Et je propose vraiment qu'on chante un chant comme une prière, c'est le chant 44, c'est le chant « Enseigne-moi ». Je ne sais pas s'il y a une équipe qui pourra nous accompagner. Non. Merci, John.
Soit on démarre tout de suite et on chante a cappella, soit on patiente une petite minute. Ok, il y a la guitare qui arrive.
Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi ta vérité, Seigneur. Enseigne-moi. Conduis-moi pas à pas dans la vie de la foi. Illumine ma vie. Enseigne-moi. Quand je suis triste et las, enseigne-moi.
Merci aux musiciens. Donc maintenant, j'invite vraiment Philippe à s'avancer. Et je vais juste présenter Philippe en quelques mots. Donc Philippe nous vient de Marseille. Il va nous le prouver. Il est missionnaire de GLO depuis de nombreuses années. Donc c'est une mission qui a pour objectif d'annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et leur vision est d'établir des équipes pour implanter des églises partout en Europe. Il est en charge d'une église à Marseille. Il est enseignant à l'Institut biblique de Genève, marié, 4 enfants, et engagé dans le ministère auprès de la jeunesse. Si j'ai oublié quelque chose, tu pourras rajouter. Donc je vais encore prier pour ce moment qu'on va passer ensemble. Père, merci pour ces moments qu'on peut passer autour de ta parole, dans ta présence, Père. Vraiment, comme on a chanté, Père, on veut vraiment que tu nous enseignes ce soir. Apprends-nous, Seigneur, vraiment, à ce soir quelque chose, Seigneur, ta parole. Et bénis Philippe, Seigneur, aide-le à transmettre ce que tu lui as appris, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.
Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait toujours plaisir d'être à Casimir Perrier, parce que je me sens un peu comme chez moi. Je me suis rendu compte en regardant l'agenda que souvent j'ai été invité ici, et ça fait toujours quelque chose quand je me retrouve en face de vous. Alors c'est le moment pour moi, et c'est très pratique d'être orateur quelquefois, comme ça on peut souhaiter les meilleurs vœux à tout le monde d'un coup. Je le fais maintenant. Je vous souhaite vraiment les meilleurs vœux. Je dirais les plus grands, les meilleurs, ce sont les bénédictions qui sont en Christ. Et pour vous, en tant qu'individu, en tant que famille, et puis aussi en tant qu'Église. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous continue à vous faire grandir dans cette région de France qui est très importante et très porteuse, et qu'il fasse de vous des lumières dans cette ville. Voilà, ça c'est mes souhaits pour vous en tant qu'individu et vous en tant qu'Église. Et Ricardo, tu as oublié quelque chose. Tu as dit que j'avais 4 enfants. Alors j'entends des sœurs qui disent « il a une femme ». Dans cet ordre, une femme et 4 enfants, oui. Et elle vous transmet aussi ses salutations. C'est vrai que sans elle, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Elle est complètement partie prenante de mon ministère. Ceci étant dit, chère sœur, ce n'était pas ce que Ricardo avait oublié. Il avait oublié autre chose. Voilà, je vais devenir grand-père dans quelques semaines, si Dieu veut. Voilà, je prends du galon. Donc, ça devrait se passer mi-février. Et je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Mais eux le savent. Alors, ce soir, on va ouvrir ensemble le livre de Néhémie. C'est un livre qui est peu étudié, ou en tout cas qui n'est pas souvent ouvert, et c'est vraiment bien que vous ayez l'idée de pouvoir ouvrir ce livre qui fait partie de la parole de Dieu, comme il a été chanté tout à l'heure, Ricardo. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile. C'est un livre de la période biblique que l'on appelle la période de la restauration. Et je vais essayer ce soir de présenter Néhémie sans faire un cours d'histoire. Peut-être vous n'êtes pas nécessairement venu pour un cours d'histoire. Et je vais essayer de faire revenir, de connecter toujours ce livre avec notre quotidien, donc de manière pratique. Et je pense que la parole de Dieu, qui est donc tout à fait inspirée, nous parle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'un livre qui a été écrit près de 500 ans avant Jésus-Christ peut nous parler aujourd'hui? Yes, he can. Oui, il peut. Il peut nous parler aujourd'hui. Mais bon, ceci étant dit, c'est toujours incontournable. On ne peut pas ouvrir le livre de Néhémie sans faire un minimum d'histoire. Donc je ne veux pas entrer dans ce qu'on appellera l'histoire biblique, mais quand même un minimum d'histoire pour nous permettre de situer un petit peu le récit. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à prendre tout de suite le livre de Néhémie, donc dans l'Ancien Testament. Néhémie, chapitre 1 et verset 1. On va le lire ensemble. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent : ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. C'est le début du livre de Néhémie. Alors, peut-être tout de suite une petite explication sur le titre. Le titre de notre séminaire, de notre week-end. Quand l'Éternel console, de la ruine à la louange. Pourquoi est-ce que ce titre a été choisi? Eh bien, parce que, comme vous le savez, le nom Néhémie a une signification. Les Hébreux étaient très forts pour donner des noms qui avaient une signification, parce qu'ils pensaient que le nom était toujours en lien avec l'identité de la personne. Néhémie veut dire « l'Éternel a consolé ». L'Éternel a consolé, donc la raison de la première partie du titre, « Quand l'Éternel console », c'est une allusion au nom même de Néhémie. Vous imaginez porter un nom pareil, « l'Éternel a consolé ». C'est tout un message. Et sa vie va montrer effectivement que l'Éternel voulait consoler son peuple. Donc, « Quand l'Éternel console », de la ruine à la louange. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de la ruine à la louange? Eh bien, parce que quand vous lisez le livre de Néhémie, vous êtes dans une histoire de reconstruction de la muraille, vous savez. Néhémie, celui qui a reconstruit la muraille de Jérusalem. Or, comme vous le voyez au début du livre, les murailles de Jérusalem, elles sont en ruine, de la ruine. À la louange, Parce que quelque part dans le livre de Néhémie, vous allez voir que les murailles vont être achevées. Et non seulement elles vont être achevées, mais Néhémie va convoquer non pas un, mais deux groupes de louanges pour faire le tour de la muraille. Et ça va être une fête extraordinaire qui va s'entendre au loin. C'est-à-dire que les Israélites vont littéralement chanter et danser sur cette muraille qu'ils ont reconstruite. Et leur louange va être entendue dans toute la région. Donc effectivement, cette histoire commence dans un contexte de ruines et se termine dans un contexte de louange. Voilà pourquoi on a choisi ce texte, hein, ce thème, ce titre, je veux dire, « Quand l'Éternel console, Néhémie, de la ruine à la louange ». Et c'est ça qui fait notre Dieu. Quand il console pas juste en mettant une claque dans le dos. Quand c'est le Seigneur qui console, sa consolation, elle va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas au milieu. Quand il restaure quelqu'un, la personne qui a été restaurée par l'Éternel est capable de le louer. Et c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas, dans une église. Ce qui caractérise une église, toutes les dénominations, c'est la faculté de louer le Seigneur. On se réunit le dimanche matin, pourquoi ? Pour louer le Seigneur. Vous avez remarqué comme le thème de la louange est important dans notre vie ? Je ne sais pas pour vous, mais dans notre quartier à Marseille, on est dans un quartier qui est un village qui a été absorbé par la ville. Et notre église, au début, était appelée une secte, parce qu'ils ne connaissaient pas dans le coin. C'est une ancienne synagogue qu'on a reconvertie en église. 15 jours, comme je vous le disais la dernière fois, on est passé de l'Ancien au Nouveau Testament. Et puis, ils se sont dit, finalement, ce n'est pas une secte. Alors, c'est quoi ? Et puis, j'ai vu que récemment, ils nous ont appelé le temple. Alors, c'est bon, le temple. OK. Et puis, pour nous différencier de l'Église catholique, qui est un pâté de maison plus loin, vous savez comment ils nous appellent ? L'Église qui chante. Parce que le dimanche matin, le groupe de louanges se réunit avant le culte. Les portes, en général, sont ouvertes. Désolé, le climat n'est pas pareil qu'à Grenoble. Et ça s'entend au loin. Nous, on pensait que ça allait gêner les voisins. Une fois, on a eu un culte en commun, on a fermé les portes de l'église, on n'était pas là. Les voisins ont dit « Oh, vous n'avez pas chanté ce dimanche ?» L'église qui chante. Mais c'est caractéristique de la vie chrétienne. On est stigmatisé, on est caractérisé par la faculté de louer le Seigneur. Et souvent, ça se manifeste au travers du chant, mais la louange se manifeste au travers de plein de choses dans la vie. Je pense que la vie chrétienne, c'est une louange pour le Seigneur. Même dans notre service, on loue le Seigneur en agissant des fois dans des domaines très pratiques. Et c'est une façon pour nous de louer le Seigneur. Alors, ce titre, je reviens maintenant au livre de Néhémie, « Quand l'Éternel console, de la ruine à la louange ». Et je vais peut-être juste brièvement faire un petit résumé filmé de cette histoire du peuple d'Israël. Nous sommes en l'an 600 avant Jésus-Christ, et le Seigneur a pris une décision par rapport à Jérusalem. C'est-à-dire que c'était son peuple, c'est toujours son peuple, mais en ce temps-là, les Israélites s'étaient détournés du Seigneur. C'était détourné du Seigneur, mais pas qu'un peu. Quand vous lisez par exemple le prophète Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament, vous rendez compte que tout le monde avait péché à Jérusalem. C'est-à-dire que les grands... Les gouverneurs, les sacrificateurs, pardon, les prophètes, tout le monde avait péché, et pas accidentellement, pas juste de temps en temps. Ézéchiel, à un moment donné, a une révélation, il s'aperçoit que même les grands de la nation adorent d'autres dieux. Ils avaient fait des trucs incroyables. Les anciens de Jérusalem, dans leur propre chambre, ils avaient des pins sur le mur, des idoles, des reptiles, des choses comme ça, et ils les adoraient. Plus que cela, dans le temple même de Jérusalem, dans le temple même, il y avait une secte, c'était peut-être les ancêtres du temple solaire, je ne sais pas. Ils étaient réunis et en face de l'autel, dos tourné à l'autel, ils adoraient le soleil. Dans le temple de l'Éternel. Les femmes adoraient une divinité sidonienne dont on n'entend plus parler aujourd'hui, mais qui était complètement païenne. Et puis... ils avaient des rituels qui étaient complètement défendus par la loi. Alors, avec cela, avec l'idolâtrie, était venue beaucoup d'autres choses. L'injustice, les pauvres étaient opprimés, il y avait du sang qui était versé. Les riches ne pensaient qu'accroître leur patrimoine et ça se faisait au détriment de la justice. Le peuple de Dieu, qui était censé représenter la justice, avait sombré dans l'idolâtrie. Et là, il y a quelque chose d'extraordinairement important qui arrive. C'est que dans le temple de Jérusalem, il y avait une pièce spéciale, le Saint des Saints, dans lequel, dans cette pièce, était censé habiter la Shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et dans ce Saint des Saints, l'un des prophètes dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ézéchiel, a une vision, il a une révélation, et il voit la gloire de Dieu s'élever, portée par des chérubins, c'est-à-dire des anges, et quitter le Saint des Saints, se transporter sur le parvis extérieur, en direction du seuil, la gloire de Dieu quitte son peuple. Le Dieu de l'Alliance, parce que le Seigneur avait dit « j'en peux plus de Jérusalem, j'en peux plus de cette injustice qu'ils vivent constamment, je m'en vais ». C'est vrai que le Seigneur ne peut pas habiter dans une maison sale, et ils avaient souillé la maison du Seigneur avec leurs impuretés. Le Seigneur, c'est un Dieu saint, et il ne pouvait pas voir ces choses-là en restant sur place. Alors il est parti. Et en même temps qu'il est parti, en même temps que le Dieu de l'Alliance s'éloignait de Jérusalem, les armées de Babylone s'étaient approchées des murailles. Et c'est en l'an 600, je crois que c'est 605 avant Jésus-Christ, que Nebuchadnezzar, donc le roi de Babylone, va entrer dans Jérusalem. La brèche va être faite à la ville. Le roi Sédécias va vouloir s'enfuir de nuit. Il va être rattrapé par l'armée des Chaldéens, des Mésopotamiens, ou si vous préférez les Babyloniens, c'est pareil, vous trouvez les trois termes dans la Bible. Il va être fait prisonnier, ses fils vont être égorgés en sa présence, on va lui crever les yeux, il va aller dans une prison à Babylone. Et donc commence pour le peuple d'Israël une période terrible qui s'appelle l'exil. Ils sont envoyés en déportation. Et le roi de Babylone a cette coutume, lorsqu'il occupe un peuple, lorsqu'il vainc un peuple, il le prend et il le met sur l'échiquier politique dans un autre pays. Et puis il fait comme ça avec tous les peuples, pour les déstabiliser. Comme ça, ils ne retrouvent plus leurs racines et puis ils ne peuvent plus se rebeller contre lui. C'était très rusé. Les dictateurs, souvent, agissent comme cela. Et donc, le peuple d'Israël va se retrouver dans un pays qui n'est pas le sien. Ils vont acheter leur eau, leur bois, on va les pourchasser. Ces gens qui avaient l'habitude de tout avoir vont apprendre ce que c'est que de vivre avec des peuples qui adorent d'autres dieux. Je ne sais pas si on arrive vraiment à ressentir ce qu'a pu ressentir le peuple d'Israël. Peut-être vous vous souvenez, ça fait quelque temps, ces 915 maisons à Fautes-sur-Mer, en Vendée, qui avaient été démolies. Vous vous souvenez ? Elles avaient été démolies par des inondations. Et ces personnes, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans maison. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter comme traumatisme de se retrouver soudainement sans maison ? Comme soudain, vous vous sentez vulnérable. Vous ne vous sentez rien. Vous sentez que vous êtes dépendant de tout le monde. Ils sont en train de demander tout simplement qu'on leur donne un asile pour la nuit. Ces gens-là ont eu en plus des problèmes avec les assurances, comme vous savez. Je parle des gens de Fautes-sur-Mer et il y a eu aussi des morts à cause de ces inondations, des traumatismes épouvantables. Certains d'entre eux ont voulu faire rebâtir leur maison parce qu'ils avaient contracté des assurances, mais les choses ont pris longtemps, comme ça se passe souvent quand on en vient aux assurances. J'espère qu'il n'y a pas d'agent assureur dans l'église. Mais souvent, c'est le cas, les choses traînent, et puis pendant que ça traîne, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous êtes à l'hôtel, cette femme avec son petit enfant, là, elle va devoir peut-être changer d'école, on ne sait pas, ça pose beaucoup, beaucoup de complications, hein. Et puis peut-être qu'il y a des amis qui peuvent vous héberger un petit peu, mais voilà, vous n'êtes pas chez vous, quoi. C'est pas votre chambre, c'est pas votre cuisine, quand vous avez faim, vous n'osez pas ouvrir le frigo, vous ne pouvez pas recevoir vos amis, parce que ce n'est pas chez vous. Et même si on vous dit, vous êtes ici chez vous, quand même, vous sentez bien que vous n'êtes pas chez vous et que vous dérangez. Puis peut-être qu'on peut vous-même vous le faire ressentir à un moment donné que, bon, il faudrait peut-être que vous trouviez une solution, parce que, voilà, quoi, ça fait longtemps. C'est ça qu'il a ressenti, le peuple d'Israël. Déraciné, pas chez lui. Et puis, il y a eu cette... cette nouvelle qui est arrivée un jour, un roi qui avait succédé au roi de Babylone, un roi perse, a écrit quelque chose. Il s'appelait Cyrus, et Cyrus a écrit que maintenant, les peuples qui veulent revenir dans leur endroit originel pour reconstruire leur lieu de culte le peuvent, y compris le peuple d'Israël. Et parmi ces gens qui étaient SDF depuis tellement longtemps, eh bien, y en a qui se sont levés, qui ont dit « ben oui, on va rentrer à la maison et on va reconstruire ». Et ils sont revenus chez eux et ils ont reconstruit. Imaginez ces gens-là, quand les compagnies d'assurance ont commencé à ouvrir les crédits, quand ils ont commencé à envoyer les équipes de maçons, d'électriciens, de charpentiers, de plombiers, etc. Imaginez ce qu'ils ont dû ressentir quand ils ont vu leur maison être reconstruite. Vous arrivez ? Vous avez vécu ce genre de choses ? Et puis quand les équipes, les corps de métier que je viens de décrire sont maintenant remplacés par d'autres corps de métier, les décorateurs, ceux qui viennent pour remettre des meubles neufs, votre maison est neuve. Et pour la première fois depuis longtemps, vous entrez chez vous, fermez la porte, vous êtes chez vous. Vous pouvez entrer dans la cuisine, manger ce que vous voulez, vous n'avez plus à demander l'autorisation, vous pouvez recevoir les amis que vous voulez, tenez, vous allez pendre la crémaillère. C'est ce qu'ils ont fait à Jérusalem. Ils ont organisé la louange sur les murailles. Ils ont pendu la crémaillère. Ils ont fait la fête. Ils étaient chez eux. Voilà ce que le peuple d'Israël a éprouvé pendant le temps de la restauration, pendant le temps de la déportation et pendant le temps de la restauration. Ce que nous apprenons dans cette période de l'histoire biblique qui s'appelle l'histoire de la restauration, c'est que Dieu est le Dieu de l'histoire. Il contrôle l'histoire. J'ai envie de dire, il contrôle aussi notre histoire. Jérémie, alors que Jérusalem allait être envahie, avait tiré la sonnette d'alarme, il avait dit « Attention, si vous continuez l'idolâtrie, vous allez être envahis par les Babyloniens ». Et puis, comme le peuple d'Israël, en ce temps-là, refusait de se repentir, Jérémie avait donné cette prophétie. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. La déportation a duré 70 ans. C'est beaucoup, hein? Vous avez le temps de vous installer quelque part en 70 ans. Vous avez le temps même de faire des affaires, de refaire votre vie en 70 ans. Et ce n'est pas tous les Israélites qui, quand Cyrus a dit ben, « Allez retourner maintenant pour reconstruire Jérusalem », ce n'est pas tous qui sont allés, parce qu'il y en avait qui s'étaient installés. C'était tous ceux qui avaient leur ville et leur nation à cœur, qui se sont levés et, croyez-le ou pas, mais pour certains d'entre eux, c'était dur de quitter ce qu'ils avaient. Nous allons apprendre tout à l'heure que Néhémie était échanson du roi. C'est lui qui a rebâti les murailles. Vous savez ce que c'est un échanson ? L'échanson du roi, c'est celui qui sert le vin au roi. Mais attention, hein, ce n'est pas le garçon de café du coin. Hein. L'échanson du roi, en ce temps-là, c'était quelqu'un d'important. On a retrouvé des textes dans d'autres nations où les chansons du roi n'étaient rien de moins que le premier ministre du royaume. Parce qu'en ce temps-là, le vin, il y avait une connotation mystique dans le vin. Les rois païens, ils buvaient du vin jusqu'à être ivres, et après, ils commençaient à louer leur dieu. C'était comme ça que ça se faisait. Donc le vin était réservé pour certaines cérémonies païennes, et avec les riches qui pouvaient avoir du vin en ce temps-là. Imagine celui qui sert le vin dans la coupe royale. C'est un homme important. Il a des responsabilités aussi. Il doit goûter le vin pour savoir s'il n'est pas empoisonné. Mais il est garant du roi. Il est proche du cœur du roi et le roi a confiance en lui. C'est lui qui goûte son vin. C'est lui qui lui conseille le vin qu'il doit boire. C'est lui qui lui sert le vin lors de ce passage dans le festin où les rois commencent à divaguer avec les grands et à louer leur dieu païen. C'est les chansons du roi qui est responsable de ce moment aussi. Alors vous imaginez Néhémie, c'est pas n'importe qui, hein. Eh bien, des juifs comme ça, à cette époque, qui vont prendre leur pays à cœur et qui vont être capables de quitter ce qu'ils avaient peut-être gagné même dans la déportation, et de revenir à Jérusalem, il va y en avoir une poignée. Et cette poignée, c'est ce reste qui va revenir et qui va reconstruire donc Jérusalem. Je disais tout à l'heure, Dieu est le Dieu de l'histoire. Ça va ? On fait pas trop d'histoire, c'est bon ? On est en plein dans la restauration, mais sinon on comprend pas ce qui se passe après. Je suis désolé, il faut un résumé filmé. Là, on est en train de faire un résumé filmé de plusieurs siècles, hein, les amis. Ce qui est extraordinaire quand on fait un petit peu d'histoire, quand on s'intéresse au travail de nos amis érudits qui ont fait de l'histoire ancienne, c'est quand on regarde les dates. Regardez ça. 605, c'est la date de la première déportation. Nébuchadnezzar, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'accord ? Quand Jérusalem est tombée, le feu, le sac, les gens qui s'en vont, première déportation, ils s'en vont en pleurant, à moitié nus. Nous sommes en l'an 605 avant Jésus-Christ. Ils quittent Jérusalem, ils ne la reverront jamais. Du temps va se passer, et quand les premiers exilés vont être de retour, grâce au décret de Cyrus, ils vont se mettre à l'œuvre et ils vont construire en premier quoi ? Ils vont construire en premier l'autel. L'autel des sacrifices. Parce que quelque part, il y a une leçon de l'histoire qu'ils ont compris, qu'ils ont comprise. C'est que s'ils se sont fait envahir par Nébuchadnezzar, c'est que la ville n'était plus protégée. Si la ville n'était plus protégée, c'est que Dieu avait abandonné la ville, comme Ézéchiel l'avait dit, oui. Et donc, pour que le Seigneur de nouveau reprotège cette ville, il faut de nouveau instaurer le sacrifice de l'Alliance. Où est-ce qu'on instaure le sacrifice de l'Alliance ? Sur l'autel. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand vous faites le compte, de 605 à 535, date à laquelle l'autel a été rétabli et les fondations du temple ont été posées, il y a précisément 70 ans. Faites le compte. Le prophète avait dit, « Voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai ma bonne parole. » Vous appelez ça du hasard ? Mais il y a plus. Regardez. L'histoire même du temple, je ne vais pas le commenter en détail, vous pourriez avoir ce tableau si vous voulez ensuite pour le relire à tête reposée, mais regardez ce qui se passe. Le temple, là nous sommes dans l'histoire même du temple, le temple de Jérusalem, qui a été détruit, mais jusqu'en son fondement, par Nébuchadnezzar, peu après l'invasion de Jérusalem en 586. Puis ensuite, vous avez tous les événements politiques. Dieu avait dit que Babylone, qui avait fait tomber Jérusalem, tombera à son tour. Effectivement, Babylone est remplacée par les Perses. Vous voyez ? En 539. Puis le fameux décret de Cyrus, roi de Perse, qui va permettre aux Israélites de revenir chez eux. Et puis, les premiers retours. Lisez ces choses-là dans Esdras, notamment. Il faut lire Esdras en même temps que Néhémie si on veut avoir une bonne profondeur du livre. Hein. Vous avez des retours successifs des exilés. Et puis, ils vont se mettre à l'œuvre, donc en 535, pour l'autel et les fondations. Mais ensuite, ils vont continuer à construire ce qu'il y a autour de l'autel, c'est-à-dire le temple. Ils vont terminer le temple en l'an 516, après bien des péripéties. Il y aura même une interruption de 14 ans de travaux dus aux ennemis qui sont autour de Jérusalem. Faites le compte. Le temple est détruit en 586, il est reconstruit en 516, vous avez encore 70 ans. Dieu est le Dieu de l'histoire. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Vous ne trouvez pas ça impressionnant ? Moi, je trouve ça impressionnant. Mais il y a encore plus. Quand vous faites le compte, 516, et vous rajoutez 70, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'an 446 avant Jésus-Christ. Le moment où les frères de Néhémie quittent Jérusalem pour faire leur rapport dans la capitale à Suse. Et l'action de Néhémie commence un an plus tard, en 445. Vous refaites le compte ? 70 ans. 70 ans après la reconstruction du temple, commence l'histoire de Néhémie. Vous avez trois fois 70 ans. Vous appelez ça le hasard ou le hasard avec un grand D, D majuscule, le hasard de Dieu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas impressionnant de savoir que Dieu est le Dieu de l'histoire. Il contrôle tout. Pour lui, la restauration d'Israël n'est pas quelque chose qui est arrivé Bon, ok, à un moment donné, je les ai punis, et maintenant, peu cher, je change d'avis. C'est pas ça, hein. On est ici dans un plan très, très construit. Dieu a tiré ses leçons de loin. Quand Dieu reconstruit, cela fait partie d'un plan. C'est pas quelque chose qui arrive subitement, comme si Dieu avait changé d'avis. Le plan de reconstruction de Dieu habite toute la Bible. La Bible est un livre à propos de la reconstruction. C'est le livre de la rédemption. C'est le livre de la reconstruction de l'homme par Dieu. Et ces choses-là ne sont pas arrivées par hasard. Est-ce que vous trouvez intéressant cette partie historique ? Oui ? Je vous ai dit qu'on ne ferait pas de cours d'histoire. Mais je trouve qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas cet arrière-plan historique. Alors le thème principal du livre de Néhémie sera précisément la reconstruction. Le thème de la reconstruction. C'est le thème qui va donc traverser le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie est donc un livre à propos de la reconstruction. C'est un beau thème, n'est-ce pas ? La reconstruction. Vous voyez ces murailles ? Vous connaissez cette scène de Néhémie ? Il vient d'arriver à Jérusalem avec quelques-uns de ses frangins. Et puis, il fait le tour de la ville la nuit, au bout de 3 jours. Il a traversé des déserts. C'est un homme, ce gars. Hein, il a traversé des déserts. 3 jours de repos. Allez, on commence les travaux. Wow. Et la nuit, en plus, il va faire le tour de la ville avec son cheval et il va se rendre compte de l'ampleur du désastre. Il va faire un état des lieux. Il va réfléchir à ce qui s'est passé. Peut-être dans sa tête, il va revoir les scènes du passé, les Chaldéens qui rentrent dans la ville, les murailles qui sont calcinées par le feu. Attention, ces murailles, elles avaient été reconstruites quelques années avant. Elles ont été de nouveau redémolies. Et quand Néhémie entend le rapport de ses frères, de Hanani, il est dans la désolation parce que, entre-temps, ils avaient reconstruit les murailles, elles avaient de nouveau été démolies. Alors, lui, il laisse maintenant la coupe de l'échanson et il demande au roi, est-ce que je peux aller à Jérusalem pour m'occuper de la ville de mes pères. Et le roi, dans un moment de grâce, va lui dire oui. Et Néhémie, donc, va faire un état des lieux de la ville. Il va faire le tour et il va se rendre compte à quel point la ville, elle a été démolie. Et en même temps qu'il va faire cet état des lieux, il va faire des plans de reconstruction. Probablement, cette nuit-là, il y a eu beaucoup de pensées dans le cœur de cet homme. Comment est-ce que on va, oh là, il faut reconstruire aussi cette porte, et puis là aussi, et puis, oh là, ça a brûlé carrément. Là, on ne retrouve même pas les pierres. Les nations alentours ont dû les voler pour construire leur maison. Il va falloir faire venir. Et là, il y a plein de gravats, il faut l'enlever aussi. Et il a commencé à faire une évaluation des travaux. C'est un livre à propos de la reconstruction. C'est vrai que quand on parle de reconstruction, il faut faire un état des lieux. Et moi, je vous propose un bref état des lieux, un bref survol. Non pas de l'état de Jérusalem en l'an 445 avant Jésus-Christ, j'ai essayé avec mes petits mots de vous décrire l'ampleur du désastre. Mais je vois autour de moi aujourd'hui encore quelque chose qui mérite notre examen en tant que chrétien. C'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde dans lequel on vit. Néhémie s'est levé de nuit pour constater l'ampleur du désastre. Je pense que l'envie de reconstruire a commencé là, dans son cœur. Quand il a vu vraiment, oui, il avait entendu des rapports, mais là, il a vu avec ses yeux. Il a vu les maisons de ses frères démolies, il a vu la muraille démolie, il a imaginé les scènes. Et là, son cœur a été touché. Lorsque j'avais commencé mon travail de, Ricardo, tu as bien dit missionnaire, à Marseille, il y a de cela 20 ans, il y a une chose que j'ai découverte, et pourtant je suis marseillais. Tout à l'heure, vous avez rigolé quand j'ai dit peu cher. J'espère que j'en ferai pas d'autres. Mais tu m'avais dit, je le prouverai, je l'ai prouvé. Tu vois, quand j'ai commencé ce travail, ce qui m'avait vraiment touché dans mon cœur, c'était, et pourtant je ne suis pas d'un naturel dépressif. J'aime plutôt rigoler, Dieu merci, voilà, j'ai une bonne nature. Mais quand je rentrais le soir, quelquefois ma femme, elle me disait, mais qu'est-ce que tu as ? J'allais pas bien. J'allais pas bien à cause de ce que j'avais vu. Au début, quand vous travaillez dans une grande banlieue de 150 000 personnes, il n'y a pas d'église, il n'y a rien, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas d'endroit pour vous réunir. D'abord, il n'y a pas de chrétiens. Les seuls chrétiens, c'est l'équipe missionnaire. Vous êtes 2 couples, c'est très petit. Vous êtes 4 et ils sont 150 000. Non, il ne faut pas penser comme ça. On est peu et on est peu, quand même. Alors on prie, on essaye de faire ce qu'on peut. Et l'endroit où tu vas travailler, c'est où ? Eh ben, c'est dans la rue, c'est dans les centres sociaux, c'est là où ça se passe. Tu fais des activités pour les enfants, des activités manuelles sur les trottoirs. Tu essayes de faire ami-ami avec les directeurs de centres sociaux pour avoir des structures. Quand il pleut, il arrive de pleuvoir quand même à Marseille. Et quand tu dois faire aussi des activités un peu plus construites, et tu fais beaucoup de visites aussi, tu fais de la distribution, les gens répondent aux distributions. Quand ils répondent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les visiter, hein, afin qu'ils louent le Seigneur au jour où il les visitera. Et tu te dis, mais peut-être que le Seigneur va les visiter au moment où on va les visiter. Et ça s'est passé plein de fois, où les gens attendaient la visite de Dieu, et nous, on était juste comme ces messagers. On a vu des choses extraordinaires. Mais on a vu des choses extraordinaires au milieu d'un tissu de souffrance. Vous savez, les gens qui sont concernés par l'Évangile, les premières personnes qui vont répondre à l'Évangile, sont souvent les personnes qui vont mal. Je crois qu'il y a un proverbe comme ça, le Seigneur il l'avait cité, c'est pas les bien portants qui ont besoin du médecin. Mais bon sang, je l'ai appris. Quand j'ai commencé mon travail à Marseille, c'était pas les bien portants qui avaient besoin du Seigneur. C'était les malades. Notre coéquipière qui était venue de Nouvelle-Zélande, elle avait laissé un super boulot, elle était journaliste dans un grand journal en Nouvelle-Zélande. Elle se retrouvait à donner des cours d'anglais dans un centre social et à faire du ménage pour une personne qui était handicapée des deux jambes et qui s'était convertie. Alors, on ne peut pas juste s'occuper de son âme et laisser la maison dans l'état où elle était abandonnée par sa famille. Il fallait même la laver. Alors moi, quand je voyais tout ça, ça me brisait le cœur. Je savais, bien sûr, qu'il y a de la souffrance. Je savais qu'il y a des vies brisées. J'aurais dû le savoir parce que ma vie aussi, elle était brisée. C'est le Seigneur qui m'a reconstruit. Mais quand tu le vois, quand tu le vois et que tu le touches du doigt, quand tu vis dedans, c'est pas pareil. C'est ça qu'il a fait Néhémie. Il est allé voir et il s'est rendu compte de l'ampleur des dégâts. Je me rappelle de mon épouse qui était bien occupée avec les enfants. On avait des enfants en bas âge. Et ce qu'elle faisait la plupart du temps, ben, quand elle aidait, c'était pas très glorieux. Elle écoutait les gens, surtout les jeunes filles, parce qu'elle avait beaucoup de bons contacts avec les jeunes filles, pleurer parce qu'il y avait des histoires pas possibles, des histoires qui venaient de l'enfance, et je vous cache les détails, ou je vous les cache pas. C'est ces gens-là qui se sont intéressés au Seigneur. Il y en avait plein, et ils se sont convertis. Et des fois, moi, je voulais faire bien et dire, ben, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour les aider ? À part toujours leur rendre service, se lever le matin, aller quelque part pour aller voir un jeune, deux jeunes, trois jeunes, dès le matin pour les réveiller de leur lit, allez, on va à la NPE ensemble, on va trouver du boulot. Mais oui, on va trouver du boulot. Tu crois en Dieu ou pas? Allez, lève-toi. Allez, je t'attends. Non, madame, c'est rien, je suis en train de... Non, mais c'est bon, je ne veux pas de café. Non. Allez, grouille-toi. Tu fais ça deux, trois fois par semaine. Tu amènes des amis dans des séminaires parce que tu te dis, dans un séminaire chrétien, oui, il faut qu'ils voient à quel point le peuple de Dieu il est grand. Ça va les encourager, tu vois. Il faut qu'ils quittent leur contexte et qu'ils voient l'Église. Mais pensant, c'est pas que nous, notre petit noyau à Marseille, c'est grand, c'est vaste. Allez, je vais les emmener dans un séminaire qui va les brancher. Et ils n'arrivent pas à tenir en place. Ils se lèvent parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se concentrer. Ils vont fumer une clope dehors. Tu te dis, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi j'ai les pires? Je n'aurais pas pu avoir des gens normaux. Je me suis vraiment repenti de ce genre de pensée. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin, pas les bien portants. Et c'est un privilège d'avoir les pires. Ben les pires des années après, ce n'est pas les pires. Les pires, ça devient des fois les meilleurs. Bien des derniers seront les premiers. C'est quand le Seigneur reconstruit quelqu'un. J'ai été témoin de ça plusieurs fois. Quand le Seigneur reconstruit quelqu'un. C'est beau. C'est beau ce qui arrive. Bien sûr, toi, tu connais les histoires qu'il y a derrière. C'est facile de voir la personne qui, maintenant, a une famille, qui a des objectifs dans la vie, et tu oublies. Tu oublies les ruines. Tu oublies d'où cette personne vient. Tellement c'est beau quand le Seigneur reconstruit. C'est ça qui fait notre Dieu. C'est comme ça qu'il reconstruit notre Dieu. D'une manière plus générale, lorsqu'on jette un coup d'œil autour de nous, on s'aperçoit aujourd'hui que dans notre société, les grandes instances d'intégration sont en crise. Vous savez, c'est ces instances qui sont censées construire l'individu. Il y a trois choses qui construisent un individu. D'après nos sociologues, trois choses construisent un individu. Et je suis globalement d'accord avec ça. La famille construit l'individu. Vous êtes d'accord avec ça? Une autre instance d'intégration très importante, c'est l'école. L'école construit l'individu. Et puis, le gouvernement, c'est-à-dire les autorités qui sont censées construire pas uniquement des individus, mais toute une nation. Or, on se rend compte que ces trois instances d'intégration, eh bien, elles sont en crise. Regardez ce qui se passe au niveau de la famille. Vous connaissez les statistiques, je ne vous apprends rien. Vous savez que dans les grandes villes, il y a un mariage sur deux qui termine par un divorce au bout de 2 ans. 2 ans. Vous interrogez un sexologue, il vous dira 2 ans, c'est le temps qu'il faut à une relation pour s'arrêter quand elle est uniquement basée sur l'attrait sexuel. Mais sur quelle base se sont-ils mariés ? C'était beau le jour du mariage, 2 ans après. Et ça, c'est juste les choses qu'on connaît, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas mariés et qui se quittent quand même. Et puis, les drames sont les mêmes dans les cœurs. Il y a les enfants au milieu de tout ça. La famille a été très attaquée. Les hommes, aujourd'hui, ne savent plus, sont paumés par rapport même au rôle du père. Qu'est-ce qu'un père ? Qu'est-ce qu'un père ? Posez une question dans la rue, qu'est-ce que c'est pour toi un père ? Tu vas avoir des réponses très intéressantes. J'y avais remarqué que souvent, les gens qui sont reconstruits par le Seigneur ont un problème par rapport au père. Un grand sociologue que je ne citerai pas, ou plutôt l'ancêtre de la sociologie, qui était fils de rabbin, il avait dit « le manque de repères vient de l'absence du père ». Ça s'est véhiculé et aujourd'hui quelqu'un a pensé que c'était lui qui avait eu cette pensée, mais c'est quelque chose de très ancien. Le manque de repères vient du manque de père. Réfléchis à ça. La parentalité aujourd'hui, la parentalité. Tu vas chercher un enfant, ou plutôt un jeune, et ses parents ne savent même pas où il est. Mon épouse, qui est psychomotricienne, elle a l'habitude de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, et les gens, la plupart du temps, qui ont des problèmes, il faut chercher les racines dans la famille. C'est là que sont les racines des problèmes. Et on peut dire la même chose, je dirais, hein, de l'école. Il y a des gens qui font des études, peut-être ici, pour être instituteur ou professeur, et vous vous rendez compte que vous faites du social, tout le temps. Même vous devez travailler ensemble. Et dans les quartiers les pires, c'est là qu'il y a les meilleurs enseignants, parce qu'ils travaillent vraiment ensemble pour justement apporter à ces enfants quelque chose d'autre. Et je suis très, très reconnaissant pour quelques professeurs que j'ai eus quand j'étais plus jeune, qui m'ont tiré vers le haut et que j'oublierai jamais. Ils ont su prendre soin de nous. Ça, c'est chouette. Si vous avez ce boulot-là, vous avez un boulot en or. C'est tellement important. Vous parlez du gouvernement, c'est une troisième crise d'intégration qui est complètement en crise, une troisième instance d'intégration qui est complètement en crise dans notre société. Les ruines, on est en train de les vivre encore, on a appris une nouvelle ce matin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne vais pas faire de politique, mais toujours en est-il que le mythe de l'État sauveur en France, ça fait longtemps que plus personne n'y croit. Regardez notre société. Et si ce n'est pas l'Église qui prend, je dirais, cette énergie, cet espoir en Dieu pour dire « Oui, mais Dieu est un Dieu de reconstruction. Notre Dieu reconstruit. Notre Dieu est capable de reconstruire. » Plutôt que de céder au découragement ambiant et de se lamenter, Néhémie a fait un état des lieux, il a réfléchi profondément à son action et ensuite il a commencé quelque chose. L'Église. Si l'Église dans la société aujourd'hui n'a pas ce thème de la reconstruction à cœur, qui va l'avoir ? Qui va l'avoir ? Vous connaissez ? C'est un temple. Le Wexner Center for the Performing Arts of Ohio State University Campus. J'ai bien dit, hein ? Vous savez ce que c'est ? C'est un temple de la déconstruction. Ce qui stigmatise notre époque au niveau des grands philosophes de notre temps, c'est la déconstruction. C'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend aujourd'hui à nos enfants, à avoir une attitude critique par rapport au monde et tout déconstruire. Absolument tout. Être cynique. Être distant, ne pas s'impliquer, regarder les choses, les démonter et voir que ça ne sert à rien. C'est ça la déconstruction. Ce temple, c'est le Wexner Center, le centre Wexner, dans l'état de Ohio, et une maison qui a été construite comme un hymne à la déconstruction. Je vais vous lire un commentaire de Ravi Zacharias. Vous avez entendu parler de Ravi Zacharias ? C'est quelqu'un qui a écrit des livres extraordinaires que je vous conseille. Jésus et Bouddha, rencontre imaginaire. Ou bien l'homme peut-il vivre sans Dieu ? C'est un apologète, c'est-à-dire quelqu'un qui défend la foi. Écoutez ce qu'il a. Il a visité le Wexner Center. Il était reçu en grande pompe. Le guide était là et il lui a montré un petit peu ce que c'était. Alors, quand tu rentres dedans, c'est un message pour te dire que la vie, elle ne sert à rien. La vie est absurde. Mais parle aux gens dans la rue, c'est exactement l'idée qu'ils ont de la vie, la plupart. L'étonnement, je cite, « L'étonnement ne fait qu'augmenter quand vous entrez dans ce bâtiment. Car, une fois à l'intérieur, vous apercevez des escaliers qui ne vont nulle part. » Des piliers descendant du plafond sans toucher le sol et des surfaces dont les angles sont configurés de manière à créer un sentiment de vertige. L'architecte, nous a-t-on informé, a conçu ce bâtiment pour refléter la vie elle-même, incohérente et sans aucun sens, et pour symboliser les caprices des lois qui organisent le monde construit. Quand la raison de tout cela m'a été exposée, il ne me restait qu'une seule question et je la posais. Est-ce que l'architecte a agi de la même manière avec la fondation de l'édifice ? Quand on déconstruit les choses fondamentales, vous pensez qu'on peut vraiment le faire ? Est-ce qu'on peut vraiment déconstruire les grandes choses fondamentales de la vie ? Et une chose qu'on a essayé de déconstruire dans notre société, c'était l'héritage chrétien. Et en touchant à ça, on touche à beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut déconstruire les fondements même de la vie qui ont été institués par Dieu ? Est-ce qu'on peut s'amuser avec ça ? Est-ce qu'on peut s'amuser avec la famille ? Est-ce qu'on peut s'amuser avec l'enseignement ? Est-ce qu'on peut s'amuser avec l'autorité ? Ce sont les choses qui ont été instituées par Dieu. Est-ce qu'on va faire la même chose avec les fondements ? Et si ce ne sont pas les chrétiens qui, je dirais, montrent sans jeu de mots, le bien fondé des fondements, qui va le faire ? Le thème de la reconstruction, mais Néhémie, c'est aujourd'hui, c'est au XXIe siècle. Néhémie, ça peut être toi et moi, non ? Pardon, j'étais en 445 avant Jésus-Christ et je me retrouve en plein XXIe siècle. Oui, la reconstruction. J'ai entendu ce thème de la reconstruction bien des fois. Et dans l'Église, c'est un thème qui est très cher, la reconstruction, parce que nous avons un Dieu qui reconstruit. J'ai même entendu dans des séminaires de relations d'aide le fait qu'il faut absolument que l'individu se reconstruise. Et je suis vraiment d'accord avec ce message. Il faut penser à la reconstruction. Mais j'ai l'impression que si on disait juste la reconstruction et qu'on arrêtait là, on n'aurait que la moitié du message du livre de Néhémie. Permettez-moi, en guise de conclusion, de donner la deuxième partie, et ça sera bref, la deuxième partie de ce que je pense le livre de Néhémie nous transmet sur le principe de reconstruction. Vous avez vu par quoi a commencé la reconstruction d'Israël ? Le centre du centre du centre du centre ? C'est l'autel. Et j'ai l'impression que la reconstruction a commencé de l'autel, ensuite le temple, et sous Néhémie, les murailles, comme des cercles concentriques qui viennent de l'autel. Intéressant, n'est-ce pas ? Dieu a reconstruit en commençant par l'autel. Alors, vous pouvez faire une ligne avec le Nouveau Testament, là. C'est très facile, c'est évident. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il le dit, « Nous avons un autel dont les sacrificateurs ne peuvent pas manger. » C'est quoi cet autel ? L'autel du Nouveau Testament, c'est quoi ? Vous l'avez près de l'écran. C'est la croix. C'est pas notre autel ? Non ? Dieu reconstruit. Mais Dieu reconstruit pas comme les hommes reconstruisent. Dieu reconstruit depuis l'autel. Quand Dieu reconstruit un être, il le reconstruit depuis la croix. La reconstruction divine commence à la croix. Je me rappelle quand je parlais avec des gens qui étaient plutôt de gauche, et qui étaient donc des directeurs de centres sociaux, et ils me disaient, ouais, tu sais, toi, tu as contact avec quelques petites personnes, simplement, nous, on touche des centaines de familles. C'est dur, ça, quand tu travailles dans une banlieue, tu viens de commencer ton travail, tu te prends ça dans pleine tête, comme ça, tu te dis, ça fait mal. Oui, c'est vrai, avec quelques personnes, mais le principe de reconstruction était différent. Ce n'était pas juste la reconstruction sociale, c'était la reconstruction depuis la croix. Ça impliquait bien sûr un travail social. Mais l'intention derrière, c'était la reconstruction depuis la croix. Sinon, il n'y a pas de reconstruction vraiment au sens où Dieu l'entend. Donc la reconstruction de Dieu, elle commence depuis la croix. Et je poserai pour finir cette question. Pourquoi est-ce que Dieu a reconstruit les murailles de Jérusalem ? Pourquoi est-ce que Dieu a reconstruit les murailles de Jérusalem ? En plus, il l'a fait en un temps record, 52 jours. Première question, première réponse qui peut être évidente, eh bien parce qu'il y avait cet autel et ce temple, et que les murailles servaient à protéger le lieu de l'Alliance. N'est-ce pas ? Il a reconstruit les murailles parce qu'elles étaient autour du temple. Voilà pourquoi il a reconstruit les murailles. N'est-ce pas ? C'est vrai ? Peut-être ? Pour une autre raison encore ? Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté nord, c'est-à-dire Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Psaume 48, verset 2. Pourquoi est-ce que Jérusalem a été reconstruite ? Parce que 445 ans plus tard, devait entrer un peu plus, vous ajoutez encore un peu plus de 30 ans à cela, devait entrer dans cette ville le grand roi. Parce qu'on parle de prophétie, pour que la prophétie soit vraiment accomplie, le Seigneur lui-même devait entrer dans Jérusalem. Et donc, je pense que Jérusalem a été reconstruite parce que la prophétie disait que le Christ devait venir à Jérusalem. Écoutez les paroles du Christ lui-même. « Ne jurez pas ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. » Le Christ atteste en Matthieu 5, 35 que Jérusalem est la ville du grand roi. Luc 13, 33, « Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Le Seigneur savait qu'il devait être jugé à Jérusalem. Donc la ville a été reconstruite pour que la prophétie soit accomplie, pour la première venue du Seigneur. Donc Néhémie a reconstruit les murailles. Il les a reconstruits à cause de l'autel, et il les a reconstruits aussi parce que la prophétie avait prévu que le Christ devait venir à Jérusalem. Deux choses. Quand Dieu reconstruit quelqu'un, c'est depuis l'autel, depuis la croix. Et c'est en vue de quelque chose. Quel est le prochain grand événement qui va arriver dans l'agenda de Dieu ? Amen. Alléluia. Le retour de Christ. Mais bien sûr, c'est le prochain événement dans l'agenda de Dieu. Christ revient. Quand Dieu reconstruit quelqu'un, il le reconstruit depuis la croix, en vue du retour du Seigneur. C'est quelque chose, alors ils ne se moquent pas de moi à Marseille, j'espère que vous ferez comme eux plutôt. C'est un dessin que j'ai dessiné moi-même, alors je ne sais pas bien dessiner, mais voilà. Je leur ai expliqué, on en a parlé, ils ont compris. Vous devriez comprendre aussi, étant donné que c'est des Marseillais qui ont compris. Vous voyez la vie tout en noir là, en bas, les flèches, c'est la vie de l'homme naturel. Elle va à la perdition, puis à la croix. Et à partir de la croix, Dieu reconstruit, n'est-ce pas ? Depuis l'autel. Et il reconstruit en vue du retour du Seigneur. Et voilà le plan de reconstruction de Dieu. Il commence à la croix et l'homme ou la femme est reconstruite en vue de la venue du roi. En vue de la venue du roi, nous ne sommes pas reconstruits, point. Nous sommes reconstruits en vue de l'œuvre du Seigneur. Parce que nous avons rendez-vous avec le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes reconstruits depuis la croix. Ça s'appelle en langage biblique, la sanctification progressive. C'est la construction progressive de Dieu qui commence à la croix et qui arrêtera uniquement quand nous serons face à face avec le Seigneur. Voilà le plan de reconstruction de Dieu. C'est un plan parfait. Je pense que le livre de Néhémie nous montre une image de cette reconstruction qui a commencé depuis l'autel en vue du retour du Seigneur. C'est là que nous sommes, sur cette ligne, nous sommes à des niveaux divers. Mais une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur va accomplir son œuvre aussi sûrement qu'il a reconstruit Jérusalem. Il va reconstruire toute personne qui s'est confiée en son Fils. Et il va rendre son œuvre parfaite. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était un bref survol du livre de Néhémie. J'espère qu'il est édifiant pour nous de savoir que nous sommes dans un plan de reconstruction, que Dieu nous aime, que ce plan de reconstruction a commencé à la croix, avec les grandes doctrines du pardon, de la justification, avec le don du Saint-Esprit, avec l'immersion dans le peuple de Dieu et la communion fraternelle. Depuis la croix, en vue du retour du roi, parce que nous allons être construits encore jusqu'à ce que nous nous retrouvions face à face. Voilà le plan de reconstruction de Dieu, quand l'Éternel console.
Merci Philippe. Maintenant, nous avons 30 minutes de pause. Il y a une table qui a été installée juste au fond, donc on peut...